Marine Le Pen empêchée de se présenter à la présidentielle de 2027. Elle a été condamnée à 4 ans de prison, 100 000 euros d'amende et surtout à 5 ans d'inéligibilité dans l'affaire dite des assistants parlementaires. Ce mardi 1er avril sera-t-il une date décisive pour retrouver les bases d'un nouvel accord? Les négociations doivent se poursuivre aujourd'hui au commissariat avec l'ensemble des groupes politiques autour du document que leur a remis Manuel Valls. Les conditions de l'adoption du budget 2025 continuent à faire du bruit. Elles font l'objet de tentatives de justification et d'échanges de communiqués. Explications dans ce journal. Les professionnels de santé tirent une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Dans une étude Queen Novi, 460 d'entre eux indiquent souhaiter quitter le territoire à la suite des émeutes de l'an dernier. Léon Marchand de passage en Calédonie, le quadruple médaillé d'or de natation au JO de Paris sera à 15h à la piscine du Wentoro avant un masterclass avec des jeunes nageurs calédoniens. Le temps pour votre mardi, des nuages, des averses et peut-être quelques coups de tonnerre. Température comprise entre 29 et 32 degrés au meilleur de la journée.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Lionel.
Bonjour Thierry, bonjour à toutes et à tous.
Et à la une, l'actualité en métropole.
Oui, actualité politico-judiciaire avec ce qui est depuis hier soir un véritable séisme politique. Dans l'affaire dite des assistants parlementaires, Marine Le Pen et ses coprévenus ont été reconnus coupables de détournement de fonds publics. La présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale a été condamnée à une très lourde peine. 4 ans de prison, dont 2 ans avec sursis, 100 000 euros d'amende, mais surtout à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. C'est donc le pire des scénarios pour Marine Le Pen et le Rassemblement National qui s'est produit hier soir pour nous. Avec ce jugement, Marine Le Pen ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Alexandre Chevaux pour Europe 1.
Scénario que tout le parti refusait d'envisager et dont les conséquences sont d'autant plus explosives, si bien que lorsque la présidente du tribunal Bénédicte de Pertuis a annoncé que la peine d'inéligibilité de Marine Le Pen était assortie d'une exécution provisoire. La principale prévenue a quitté la salle d'audience, le visage fermé, sans même attendre de connaître la durée de cette peine. Une décision motivée, selon le tribunal, par le risque caractérisé de récidive, puisque les prévenus ont contesté les faits qui leur étaient reprochés. Alors, les magistrats ont jugé qu'il était probable qu'il recommence. C'est précisément ce qui indigne l'avocat de Marine Le Pen, maître Rodolphe Bosselu.
La présidente a indiqué que parce que Madame Le Pen, comme les autres prévenus, avait exercé les droits de la défense, comme par exemple demander une prescription, ce qui est quand même la base de n'importe quelle défense, de n'importe quel prévenu, eh bien, il y avait un risque de réitération ou de récidive. C'est totalement, absolument incroyable. Il y a une forme de criminalisation de la défense que je trouve, pour ma part, extrêmement scandaleuse.
Marine Le Pen est depuis la mi-journée enfermée au siège du RN Porte de Saint-Cloud, entourée de sa garde rapprochée pour tenter de mettre en place la riposte la plus adaptée. Même si son avocat l'a confirmé, aucun recours juridique n'est possible contre l'exécution provisoire.
Alexandre Chevaux du service politique d'Europe 1. Il y a un peu plus d'une heure maintenant, Marine Le Pen était l'invitée du journal de TF1. Une première prise de parole plusieurs heures après le jugement rendu hier soir pour nous. Écoutez Marine Le Pen.
Moi, je serai toujours à côté des Français. Il y a des millions de Français qui croient en moi. Des millions de Français qui me font confiance. Et je viens leur dire, ça fait 30 ans que je me bats pour vous. Et ça fait 30 ans que je me bats contre l'injustice. Et par conséquent, je vais continuer à le faire. Et je le ferai jusqu'au bout. Je ne suis pas prête à me soumettre à un déni de démocratie aussi facilement. Ce sont les électeurs qui, dans une démocratie, décident. Et moi, je viens leur dire ce soir, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas démoralisée, je suis comme vous, scandalisée. Je suis comme vous, indignée. Mais cette indignation, ce sentiment d'injustice, est un moteur peut-être supplémentaire au combat que je mène pour eux.
Marine Le Pen, ce matin, pour nous, invitée du journal de TF1. Dans ce procès dit des assistants parlementaires, d'autres ténors du Rassemblement National ont été condamnés. Louis Alliot, le maire de Perpignan, écope de 18 mois de prison, dont 6 mois ferme sous bracelet électronique, et une peine d'inéligibilité de 3 ans sans exécution immédiate. Condamnation également de Nicolas Bay, de Bruno Gollnisch ou encore de Julien Odoul. Marine Le Pen, elle, écope, rappelons-le, de 4 ans de prison, dont 2 ans ferme sous bracelet électronique et donc de 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Les avocats de Marine Le Pen ont annoncé qu'ils allaient faire appel de ce jugement. Les avocats de Marine Le Pen qui souhaitent s'engouffrer en fait dans un petit espace juridique pour que Marine Le Pen puisse être candidate à la présidentielle. Explication William Molinier d'Europe 1.
Une petite chance avec beaucoup de conditionnels. Marine Le Pen va faire appel, ses avocats l'ont annoncé. Alors partons du principe que ce deuxième procès sera audiencé avant 2027, ce qui est possible car l'exécution provisoire de la peine fait automatiquement remonter cette affaire dans les dossiers à juger prioritairement. Donc imaginons que fin 2026, début 2027, Marine Le Pen soit condamnée à la même peine et à la même inéligibilité, mais sans l'exécution provisoire. Cela lui permettrait de faire un pourvoi en cassation qui suspendrait alors son inéligibilité. Elle pourrait, dans ces conditions, déposer une candidature. Autre possibilité, lors de ce procès en appel, l'exécution provisoire subsiste, mais sa peine d'inéligibilité est réduite, passant de 5 ans à moins de 2 ans, une peine qu'elle aura déjà purgée, puisque la décision de première instance s'applique dès aujourd'hui. Deux hypothèses, il faut le dire, très ténues. Une troisième existe, la relaxe définitive de Marine Le Pen en appel, scénario idéal, mais peu crédible, tant le jugement du tribunal a été sévère à son encontre.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Le jugement rendu hier soir pour nous dans cette affaire des assistants parlementaires suscite de très nombreuses réactions. Le Premier ministre François Bayrou aurait été, selon son entourage, troublé par cette annonce. Une annonce qui fait donc réagir l'ensemble de la classe politique française. Mais pas seulement, Maïlène Trémollet pour Europe 1.
Aujourd'hui, c'est la démocratie française qui est exécutée. Ce sont les mots de Jordan Bardella quelques instants après le jugement. Et à l'indignation du camp national s'ajoute celle du reste de la droite. Ainsi, pour Éric Zemmour, ce n'est pas au juge de décider pour qui doit voter le peuple. Tandis que le chef de file des députés LR, Laurent Wauquiez, lance l'alerte. Il n'est pas sain qu'une élue soit interdite de se présenter à une élection. Sans surprise à gauche, les réactions sont plus contrastées. La justice, c'est la justice, rappelle sobrement Fabien Roussel, le chef de file communiste. Marine Le Pen doit payer sa peine, renchérit l'écologiste Marine Tondelier. En revanche, si la plupart des élus insoumis ne cachent pas leur satisfaction, Jean-Luc Mélenchon lui-même rappelle que la décision de destituer un élu devrait revenir au peuple. L'effet de surprise s'étend à l'Europe et jusqu'en Russie, puisque le Kremlin déplore une violation des droits démocratiques. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban martèle son soutien. « Je suis Marine », déclare-t-il sur X. Matteo Salvini, le vice-président italien, va jusqu'à fustiger une déclaration de guerre de la part de Bruxelles quand le milliardaire américain Elon Musk dénonce un abus du système judiciaire.
Maïlène Trémollet du service politique d'Europe 1. Puis je vous donne ce rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. Nous reviendrons sur cette condamnation de Marine Le Pen à une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire dans l'affaire des assistants parlementaires européens du FN. Quelles conséquences pour le Rassemblement National ? Pour en parler, nous recevrons à tout à l'heure Alain Descombelles, le représentant local du Rassemblement National. Il sera notre invité du matin à 7h30. Il est 6h39, on va marquer une première pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant, l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Tous les dimanches de 5h à midi, c'est la foire aux affaires au drive-in du Pont des Français. Vide-grenier, brocante, plantes vertes, places à emporter et beaucoup d'autres bonnes surprises à ne pas rater. Louez un stand au 24 39 01 au 174 rue Auguste Bénébig à Magenta. Entrée par le showroom Mazda.
8 musiciens du territoire bourrés de talent ont décidé de rendre hommage à l'un des plus grands guitaristes de tous les temps, Carlos Santana. Un mélange unique de rock, de blues, de rythmo latino, avec des titres comme Black Magic Woman, Oye Como Va ou encore Europa. Bref, une soirée inoubliable vous attend vendredi 4 au On The Beach. Vous pouvez réserver sur ticket.nc, 2600 francs pré-vente ou 3000 francs sur place. Ouverture des portes à 18h, début du concert à 19h30. Tribute to Carlos Santana, le concert vendredi 4 au On The Beach.
RRB 6h-8h, Lionel Sabot.
C'est ce soir que le ministre des Outre-mer doit quitter la Nouvelle-Calédonie au terme d'une visite de 4 jours. Et cette journée peut s'avérer cruciale. Manuel Valls souhaite en effet aboutir avant son départ à un compromis global. Et il espère en avoir trouvé les bases avant ce soir. Il a remis dimanche aux délégations politiques un document qui est un projet d'accord sur l'avenir institutionnel. Et depuis, les négociations se déroulent autour de ce texte. Toute la journée d'hier, les discussions se sont déroulées en séance plénière d'abord, puis en bilatérale. Et ce matin, c'est une réunion plénière qui doit réunir à partir de 9h l'ensemble des délégations politiques. Alors le ministre va-t-il obtenir cet accord ? La réponse d'Emmanuel Chibaou qui conduit la délégation UCFLNKS à l'issue hier soir d'une réunion bilatérale avec le ministre des Outre-mer.
Il faut lui demander. Pour l'instant, on a, voilà, il y aura des choses qui seront amenées sur la table demain, discutées demain. Et puis, voilà, on n'est pas tout seul dans la discussion. Il y a les partenaires et puis il y a l'État. Mais on a bien conscience qu'il y a, voilà, tout le monde, je pense, autour de la table, qui a la nécessité d'avancer dans la discussion pour dégager des perspectives, en tout cas des bases de discussion pour poursuivre par la suite. Il y a urgence et puis, bon, on a le budget, la situation institutionnelle qui est instable. C'est à nous de déterminer les voies et moyens pour en sortir des ornières aujourd'hui.
Quelques mots seulement d'Emmanuel Tchibao, mais il faut dire que depuis samedi, aucune information ne filtre de ces échanges. On sait seulement que Manuel Valls doit quitter la Nouvelle-Calédonie ce soir à 22h et qu'il espère d'ici là aboutir à une base d'accord. Les négociations doivent donc se poursuivre aujourd'hui. Auparavant, le ministre des Outre-mer se rend ce matin à la base Chalex. Au programme, une séquence avec la jeunesse suivie d'une visite du Dentrecastauf. Retour à présent sur l'adoption compliquée du budget 2025. C'était vendredi au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Dans un communiqué, Yoann Le Courrieux revient sur son abstention lors du vote du budget propre de la Nouvelle-Calédonie. Il veut exprimer les raisons de ses choix et rétablir la vérité sur ses votes, Léana Colombo.
Oui, un long communiqué du maire de Dumbéa élu à la province sud et au Congrès. Il veut ainsi répondre à ce qu'il appelle une campagne de désinformation orchestrée après son abstention lors du vote du budget de la Nouvelle-Calédonie. Yoann Le Courrieux tient d'abord à préciser qu'il a voté en faveur du budget de reversement et du budget de répartition. Il s'est abstenu en revanche sur le budget propre de la Nouvelle-Calédonie qui oriente les actions du gouvernement et du Congrès. Il explique que cette décision repose sur plusieurs raisons qui mettent en lumière le manque de vision et de profondeur de ce document. Ce budget que devront assumer celles et ceux qui l'ont voté est bien loin d'être à la hauteur des défis qui nous attendent, écrit Yoann Le Courrieux. Il ajoute que son abstention n'aurait pas conduit aux conséquences dramatiques que certains affirment. Le maire de Dumbéa dénonce la création d'une diversion et il affirme que ses votes sont bien des actes de responsabilité et de cohérence envers les Calédoniens. Fin de citation.
Et sans surprise, les élus Génération NC de Dumbéa ne partagent pas les arguments de Yoann Le Courrieux. Ils écrivent dans un communiqué, et je cite, que Yoann Le Courrieux trahit les Dumbéa et fait le jeu des indépendantistes, Léana.
Les élus Génération NC de Dumbéa s'indignent que Yoann Le Courrieux affirme qu'il n'est pas grave de s'être abstenu lors du vote du budget propre de la Nouvelle-Calédonie. Il rappelle que ce budget intégrait les 120 milliards de francs du prêt accordé par l'État, un élément fondamental pour garantir la stabilité financière du territoire. C'est d'ailleurs pour cette raison, écrivent-ils, qu'il a été exceptionnellement voté avant les budgets de reversement et de répartition. Dans ces conditions, comment peut-on considérer que s'abstenir et ainsi voter dans le même sens que les indépendantistes et une partie de l'éveil océanien ne constitue pas une trahison envers les Calédoniens qui souffrent et résistent dignement à la crise actuelle, interrogent les élus de Génération NC. Ils affirment, et je cite toujours, que ce rapprochement avec les indépendantistes n'est pas sans rappeler les conditions de son élection à la tête de la mairie de Dumbéa, à la suite de l'alliance de Georges Naturel et Robert Rowy lors des sénatoriales de 2023, ou encore aux négociations menées avec la CCAT face aux voisins vigilants lors des émeutes. Fin de citation.
Le groupe UCF, LNKS et Nationaliste veut quant à lui justifier son vote contre le budget primitif de la Nouvelle-Calédonie. Dans un communiqué, il parle d'un choix difficile et douloureux, mais qu'il assume pleinement, car il honore l'exigence de vérité et de clarté que les indépendantistes doivent à ceux qui nous ont élus et que nous représentons. Le groupe UCF-LNKS affirme que le budget présenté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'est pas responsable et qu'il ne contribuera que faiblement, si ce n'est pas du tout, à la relance économique. Il ajoute qu'il défend une autre voie, celle d'un modèle économique plus juste, fondé sur la solidarité et la souveraineté pour construire un avenir digne et inclusif pour tous les Calédoniens. Fin de citation.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et la réponse à notre question d'hier, 75% des auditeurs d'Erarbe qui se sont exprimés par SMS pensent que Manuel Valls ne va pas obtenir un compromis global d'ici ce soir. Ils sont 25% à penser à l'inverse, que comme il le souhaite, le ministre des Outre-mer va obtenir ce compromis avant son départ. Voici notre question du jour après la publication de son communiqué. Comprenez-vous les raisons qui ont conduit Yoann Le Courrieux à s'abstenir lors du vote du budget propre de la Nouvelle-Calédonie? Si vous comprenez ces raisons, vous tapez 1. Si vous ne les comprenez pas, vous tapez 2. Vous envoyez bien sûr votre réponse au 3146. Les professionnels de santé devant la presse hier, médecins, infirmières, dentistes, ambulanciers, opticiens, orthophonistes, kinés, sages-femmes, biologistes, tous étaient réunis pour une nouvelle fois tirer la sonnette d'alarme alors que le système de santé est au bord de l'effondrement, Léana.
En 2022, la FPLS, la Fédération des professionnels libéraux de santé, avait fait réaliser par l'Institut Quid Novi une étude afin de faire le point sur l'état de la santé en Nouvelle-Calédonie. Deux ans après, la Fédération a souhaité renouveler cette étude en y ajoutant cette fois-ci un volet spécifique pour évaluer l'impact des émeutes de mai 2024 sur les professionnels de santé. Sur les 2498 professionnels de santé contactés, 579 ont répondu à cette enquête, soit un taux de participation de 23%. Et certains chiffres issus de cette étude sont extrêmement inquiétants pour le système de santé calédonien et donc pour l'ensemble des habitants de la Nouvelle-Calédonie, souligne Patrice Gauthier, le président de la FPLS.
Un professionnel sur deux, globalement, 47%, a une volonté de partir. 85% des professionnels qui disent vouloir partir ont subi un traumatisme post-émeute modéré ou fort, et 31% des professionnels restent sur la Calédonie parce qu'ils n'ont pas le choix, tout simplement. C'est-à-dire que non seulement on déplore des gens qui sont partis, il y a des gens qui veulent partir et ils sont en nombre, et surtout on a une bombe à retardement parce que 31% des professionnels qui ont été interrogés restent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, mais qu'ils partiront dès qu'ils pourront. On ne pourra plus dire « nous n'avons pas l'information » ou « on pense que ». Le « on pense que », on n'en veut plus.
Des chiffres très inquiétants qui révèlent surtout un risque majeur pour la continuité des soins. Le système de santé ne tient plus que grâce à l'énergie de celles et ceux qui restent, expliquait hier matin certains professionnels de santé présents. On retrouve Patrice Gauthier.
On est dans une phase qui est pré-effondrement, c'est-à-dire que sans professionnels, il est clair que personne ne se prendra en charge les soins. Donc en fait, ce qu'on essaye de faire nous aujourd'hui, c'est de dire, on se reprend en main collectivement, on vous propose une méthode qui s'appelle la cellule de pilotage dans laquelle vous associez tout le monde.
Est-ce qu'il y a réellement urgence?
Ah oui, les opérations qui sont décalées du jour au lendemain à la clinique ou à l'hôpital sont des exemples. Après, les gens dont on ne parle pas. Ceux qui sont loin de structures, qui ne peuvent pas se déplacer parce que les déplacements sont aussi encore compliqués, ou qui ont perdu tout simplement les professionnels de santé à côté, ça, je dirais que, bon, je ne voudrais pas dramatiser les situations, mais un peu, je meurs en silence, quoi. C'est exactement ce pourquoi on n'a pas été formé, c'est-à-dire accepter ce genre de choses, et parce qu'on n'accepte pas, ben, on a fourni un travail qui a fini par maturer un peu plus longtemps que prévu. Mais c'est le livre blanc.
Et le livre blanc dont parlait à l'instant Patrice Gauthier a également été présenté hier matin. Il s'agit d'un très gros travail réalisé par l'ensemble des professionnels de santé, profession par profession, afin de présenter un état des lieux de chacune des disciplines et de proposer des solutions secteur par secteur. Écoutez le docteur Viviane Damien, médecin anatomopathologiste.
Un système de santé, c'est un système complexe qui a besoin de beaucoup d'acteurs, qui a besoin d'une agilité, qui a besoin de modernité et qui a besoin d'être soutenu. C'est difficile de tenir un système quand on est moins nombreux pour le porter. Il y a un mur qui s'est un petit peu agrandi, on va dire, entre le côté administratif ou les tutelles et le professionnel, et qui, lors des émeutes, a été majoré. On n'est pas entendu, chacun travaille en silo dans son coin, et il y a un besoin urgent de concertation et de travailler avec, parce qu'on est des partenaires et surtout pas des adversaires. Ce qui est important, c'est que chaque citoyen, chaque patient, chaque famille, chaque décideur puisse comprendre la réalité de ce terrain.
J'ajoute que le sondage réalisé par l'Institut Quid Novi et le livre blanc ont vocation à être présentés dans les jours et les semaines qui viennent au plus grand nombre, afin qu'il y ait une prise de conscience globale de la crise que traverse le monde de la santé, qui est au bord de la désintégration, affirment les professionnels de santé.
En bref, le prix des carburants continue d'augmenter au mois d'avril. Depuis minuit, le litre d'essence a grimpé de 2,80 francs pour atteindre 167 francs. Le gasoil a quant à lui augmenté de 60 centimes. Le prix affiché dans les stations-service est désormais de 148 francs 90 le litre. Et puis avis aux automobilistes, des travaux de réparation vont être effectués entre le col de la Pirogue et la tribu de Saint-Laurent à Païta sur la RT1 dès aujourd'hui. La circulation sera donc fortement perturbée jusqu'au 4 avril entre 8h et 15h. Il est 6h50, on va marquer une nouvelle pause dans ce journal. Dans un instant, c'est la suite de l'actualité en Calédonie.
RRB 6h-8h, Lionel Sabot.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Papa, maman, c'est le moment de vous faire plaisir avec le grand jeu Huggies. À gagner un siège auto, une poussette, un parc pour bébé et un baby cook. 4 gagnants, 4 super cadeaux. Alors prêt à tenter votre chance? Pour jouer, rendez-vous dans l'un des magasins participants. Plus d'infos sur la page Facebook, le 4. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Règlement disponible chez Maître Citrita.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Info matin, à la suite de l'actualité sur le territoire, on retrouve Lionel Sabot.
Il y a un établissement scolaire saccagé ce week-end. Le collège Saint-Joseph à l'Île-des-Pins a subi plusieurs tentatives d'incendie et de vol. C'est samedi dernier, en fin d'après-midi, que les dégâts ont été constatés. Le phare de la cour centrale a été brûlé, deux portes fracturées et deux salles visitées. Du matériel a été volé, notamment un ordinateur. Les personnes en cause, toujours inconnues des services de gendarmerie, ont aussi tenté de mettre le feu à un autre bâtiment du collège, sans succès. En réaction, l'établissement a décidé de fermer ses portes hier pour prendre le temps de rencontrer les familles, comme l'explique Manuel Van der Schot, le directeur de l'ADEC.
Les parents ont tenu à faire des réunions, voilà, pour demander des explications, pour s'exprimer en présence du directeur, de l'adjointe et de tout le corps enseignant des écoles primaires et du collège. Donc chacun peut prendre la parole, donner son ressenti et envisager des pistes pour que, évidemment, essayer que cela ne se reproduise plus. Et les mesures, eh bien, ce sera des discussions entre les enseignants et les élèves pour remettre en perspective, comme nous le faisons souvent en éducation civique et morale.
Et notez que les deux autres écoles situées à côté du collège de Vao ont aussi été fermées hier, mais elles n'ont pas été touchées par les vols et incendies. Les cours devraient reprendre normalement aujourd'hui dans les trois établissements scolaires. Au chapitre des faits divers, encore un début d'incendie sur l'ancien site de la société Lefroy à Montravel. C'était hier matin. Les pompiers de Nouméa sont intervenus rapidement pour éteindre les flammes dans les décombres de l'usine déjà ravagée en mai 2024. Des individus ont pénétré dans les ruines du site pour allumer un feu de détritus. Les flammes se sont répandues sur une vingtaine de mètres carrés. Aux environs de 9 heures, le feu a pu être maîtrisé sans provoquer de gêne pour le quartier. L'origine malveillante ne fait aucun doute. Et puis un homme toujours activement recherché à la fois. Dimanche dernier, un individu d'une vingtaine d'années s'est évadé de la gendarmerie. Il avait été arrêté la veille avec 4 autres personnes après avoir participé à une fête qui a dégénéré à Canala. Les forces de l'ordre lancent donc un appel à témoins. Si vous avez la moindre information sur cet évadé à la fois, un homme d'une vingtaine d'années qui porte un t-shirt bleu, vous pouvez contacter la gendarmerie de la foi au 44 87 50. Le 44 87 50. Quelle concentration de métaux dans les denrées alimentaires locales? On le sait, les sols calédoniens sont fortement chargés en éléments métalliques. En 2017, le centre du nickel, le CNRTEC, a financé l'étude Metallica Aliments, chargée de quantifier ces concentrations. L'étude a été restituée hier matin, Léana Colombo.
Mais de quels métaux parle-t-on exactement? Eh bien, il s'agit d'analyser la présence d'éléments métalliques strictement toxiques, comme le mercure ou le plomb, mais aussi celles de métaux qui sont nécessaires au bon fonctionnement des organismes, mais qui, au-dessus d'un certain seuil, peuvent aussi être nocifs. On parle là du nickel, du chrome, du zinc ou encore du cuivre. L'étude a été menée pendant plus de 7 ans et les résultats sont relativement encourageants, selon Audrey Léopold. Elle est chercheuse en agropédologie à l'Institut agronomique de Nouvelle-Calédonie, qui a en partie mené l'étude.
Je trouve en tant que scientifique les résultats particulièrement encourageants, notamment sur la partie métaux toxiques, puisque que ce soit sur les filières agricoles, végétales ou animales, aucun métal toxique n'a montré de dépassement, donc ce qui est quand même déjà pour moi un très bon point. Il faut savoir que sur les viandes, nous n'avons pas pu quantifier de nickel, c'est-à-dire que toutes les concentrations dans toutes les viandes et les œufs que l'on a pu mesurer eh bien, étaient inférieures en fait, à la capacité de notre instrument à détecter cet élément. Et pour la partie végétale, effectivement, on a pu montrer dans certains cas, et notamment en ce qui concerne plutôt les légumes-feuilles, quelques dépassements. Donc effectivement, un point potentiellement de vigilance à avoir sur certains types de denrées, et particulièrement en ce qui concerne donc les légumes feuilles.
Ce sont les réglementations européennes qui ont été prises comme base de comparaison, puisque les normes calédoniennes n'existent pas.
Et nous reviendrons sur cette étude de façon plus approfondie ce midi dans notre magazine citoyen. Aude Léopold, que vous venez d'entendre, sera sur notre plateau, mais aussi Fabien Trottec, qui est directeur du CNRT, et Charles Huilot, ingénieur agroalimentaire et manager de Foodlab. En bref, l'ISEE constate un timide regain d'activité, mais souligne une situation toujours préoccupante dans les secteurs du nickel et du tourisme. La production et l'exportation du nickel sont en légère progression, tout comme le retour des croisiéristes sur le territoire. En revanche, les arrivées de touristes sont toujours peu nombreuses. L'ISEE annonce également qu'en février, 6 000 personnes étaient toujours bénéficiaires du chômage total. Parallèlement, les prix à la consommation augmentent depuis le début de l'année, puis plus 2%. Les ménages les plus modestes sont particulièrement touchés par la hausse des prix des services de transport en commun, des cantines, des garderies, de l'alimentation et du gaz. Et puis la commercialisation du CBD fait son chemin sur le territoire. Il y a un peu plus de 2 ans maintenant, c'était en janvier 2022, un vœu était adopté à l'unanimité par les élus du Congrès, Léana.
La proposition visait à supprimer le cannabidiol de la liste des produits stupéfiants, une substance présente dans la plante du cannabis mais qui n'entraîne pas de dépendance, contrairement au THC. Depuis, le projet a mûri, et si le cadre réglementaire reste encore à définir, une entreprise a pu bénéficier d'une dérogation exceptionnelle pour expérimenter la vente. Il s'agit de la société Tropicalm, qui s'est spécialisée dans le commerce de CBD. Elle proposera donc ce matin une dizaine de produits dérivés aux Calédoniens. Pour l'instant, les articles sont limités aux fleurs de CBD, à l'huile et aux gélules. S'agissant d'une boutique éphémère, la vente flash se fera au kiosque à musique sur la place des Cocotiers. Rendez-vous donc de 9h à 10h pour découvrir ces produits aux propriétés apaisantes.
Il est 6h et pratiquement 58 minutes. On va marquer une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité sportive et la météo pas brillante de ce mardi.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Aménagez votre jardin avec Jardiland Nouméa. Du 24 mars au 20 avril, la canisse plastique blanc simple face 1,50 m par 3 m est à 1490 francs seulement. Alors n'attendez plus pour embellir votre jardin. Avec Jardiland Nouvelle-Calédonie, vos économies commencent ici.
Jardiland. Cultivez votre bien-être.
L'association Les Petits Pansements du Cœur mène campagne pour que les rêves des enfants malades chroniques hospitalisés se réalisent. Jusqu'au 21 mai, envoyez don au 36 77 233 francs le SMS. La somme sera intégralement reversée à l'association. En partenariat avec Atout SMS Média et l'OPT, objectif 14 000 SMS. Calédoniens du Nord, des îles et du Sud, ces enfants sont les vôtres, sont les nôtres. Nous sommes tous concernés, faisons-les rêver.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
L'actualité sportive, on retrouve Lionel Sabot.
Avec cette occasion unique de côtoyer un grand champion, Léon Marchand, est sur le territoire. Le quadruple médaillé d'or en natation au JO de Paris est en transit en Calédonie, entre 2 étapes de Coupe du Monde de natation. En pleine saison, il continue évidemment de s'entraîner chaque jour. C'est la raison pour laquelle son équipe a pris contact avec l'Olympique de Nouméa. Nous a annoncé hier soir le président de la section natation du club Nouméa. Nouméa, Sébastien Baldovini.
Il est de passage sur Nouméa en transit de l'Australie et c'est son agent qui m'a appelé parce qu'ils sont sur un hôtel juste en face du Wentoro et qui me demandait les horaires où il aurait moins de monde, où il serait moins embêté. Et donc, je lui ai donné les horaires de l'après-midi. Donc, il sera sûrement sur place de 15h jusqu'à 16h, 17h pour après faire une masterclass avec les petits jeunes de l'Olympique. Puis j'espère qu'il y aura les nageurs de tout le monde qui viendra. Tout le monde peut venir voir, c'est quand même un grand champion. Et donc ça va être bien sympa, il ne reste que 2 jours sur le territoire, donc on va essayer de bien profiter de ça.
Et Léon Marchand s'entraînera donc cet après-midi à partir de 15h à la piscine du Wentoro, entraînement auquel le public pourra assister bien évidemment. Léon Marchand qui quittera le territoire dès demain. La délégation de sportifs calédoniens pressentie pour participer aux mini-jeux du Pacifique à Palau du 29 juin au 7 juillet prochain ne sera pas aussi importante que prévu en raison des difficultés financières qui touchent le territoire. 40% seulement du budget budget initial prévu a été alloué au monde sportif. Par conséquent, seules 6 disciplines sur 11 composeront la délégation calédonienne, nous a dit hier Christophe Dabin, le président du CTOS, le comité territorial olympique et sportif.
La situation financière de Nouvelle-Calédonie est tellement catastrophique qu'on ne pouvait pas s'attendre à partir avec une délégation normale. Mais par contre, pour nous, il était important que la Nouvelle-Calédonie soit présente. Par rapport au budget qui était proposé, ça tournait autour de 43 personnes au total pour la délégation. Et avec chacune discipline, on a fait le point. Et donc, chaque discipline a fait le choix de se dire, est-ce que c'est intéressant pour moi d'aller au mini-jeu ou est-ce que vaut mieux pas que j'aille faire une compétition dans les mois qui arrivent dans le Pacifique. Je souligne la conscience de nos dirigeants, la responsabilité qu'ils ont eue, parce que le choix était difficile, parce que on peut toujours après être critiqué par ses propres athlètes, mais le choix qui a été fait est un choix que dire comment on fait, où est-ce qu'on va, est-ce que c'est utile ou pas. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que les Jeux de Palau étaient une étape dans la préparation des Jeux de Tahiti. Donc, si on peut pas y aller là, il y aura d'autres compétitions de préparation qui vont se faire avant Tahiti. Et normalement, ceux qui vont à Palau, on devra avoir ces mêmes athlètes qu'on devrait retrouver à Tahiti. Et c'est l'objectif qu'on a fixé à l'ensemble des disciplines.
Christophe Dabin, le président du CTOS, qui était l'invité hier de notre magazine des sports du lundi. On termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous ce matin, Thierry.
Oui, Lionel, au loyauté sur le sud-est, la pointe sud, le temps restera instable et souvent très nuageux. Sur le sud-est, les averses seront encore parfois nombreuses et localement fortes. Ailleurs, le temps sera voilé et les éclaircies perceront de ci et de là avec des averses isolées. Sur les loyautés, l'île des Pins et la pointe sud de la Grande Terre, le vent lui orienté nord-est pour ce matin autour des 10 à 15 nœuds. Ailleurs, il sera variable faible. Autour des 5 nœuds, ce sera sur l'ouest. Des averses localement fortes se déclenchant sur le relief pour cet après-midi avant de déborder principalement vers le nord-est et le sud-ouest. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Sur le sud-est, Elifou, également des averses localement fortes. Sur le reste du territoire, les nuages sont aussi bien présents, mais les précipitations seront éparses, voire isolées. Sur le nord-ouest, Marais et l'île des Pins, peu d'évolution avec l'extrême sud et les loyautés. Le vent, lui, restera orienté nord-est autour des 10 à 15 nœuds. Ailleurs, autour des 5 nœuds de secteur sud-ouest, en général, localement variable faible. Les températures comprises, elles, en général, entre 29 et 32 degrés.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.